Bonsoir, vous êtes sur Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, notre femme Radio Zone. Au programme ce soir, dans quelques instants, les nouvelles, les informelles sur la Pleine Lune, 93.8. Et puis, c'est les coups de cœur de Marjolaine. Ensuite, de la musique, paroles et musique de femmes, toujours sur 93.8 MHz, c'est la Pleine Lune. Il y a un grand soleil encore dans le ciel, mais la Lune est toujours dans vos oreilles. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 059, depuis la Suisse. Notre adresse également, Ondes Femmes sur Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. À tout de suite pour nos nouvelles.
It was August, summer of 82.
Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Ondes Femmes Radio Zone, nos nouvelles. Vous vous souvenez tous de l'histoire de Sarah Balagan, cette jeune Philippine condamnée à mort aux Émirats Arabes Unis après avoir tué son employeur qui l'avait violée et que la mobilisation mondiale avait sauvée. Eh bien, il existe un autre cas plus près de nous, en France. Il s'agit de Véronique Akobé, ivoirienne, en prison depuis 9 ans. L'histoire de Véronique Akobé est malheureusement significative et exemplaire de l'histoire de nombreuses femmes qui émigrent et qui subissent des situations terribles. En 1987, elle arrive en France avec des papiers. Elle trouve rien d'autre que des postes de bonne. Sa première patronne la séquestre, lui confisque ses papiers pour l'empêcher de partir. Finalement, Véronique arrivera à se sauver, mais elle ne récupère pas son passeport et se retrouve donc menacée d'expulsion. Elle entre donc dans la trajectoire des clandestines. Elle finit par trouver un travail, toujours comme bonne, dans une famille très bien, très bon chic. Les Chars, Georges Chars, PDG d'une entreprise de récupération de métaux, sa femme et son fils, 22 ans, qui travaille avec son papa. Elle est sans titre de Véronique, entre donc dans là, sans titre de travail, sans salaire, sans droit de sortie. Elle n'est plus qu'une esclave, un bibelot d'un salon. Devant le tribunal, d'ailleurs, elle le dira, pour eux, je n'étais rien, moins que leur chienne, ou encore, ils me traitaient comme une esclave. Et c'est une esclave, bien sûr. Elle est là aussi, pas seulement pour nettoyer, mais pour les à côté. Les à côté, c'est le viol collectif par le père et le fils à 3 reprises. Véronique racontera, ils me tenaient par le cou. L'un d'eux a mis sa main sur ma bouche pour m'empêcher de crier. Ils m'ont tenu, les deux m'ont violée. Et puis finalement, elle n'en peut plus. Un soir du mois d'août 87, elle prend 2 couteaux. Elle ira avant tuer le fils, ensuite le père. Elle sera arrêtée peu après et lors du procès en 1990, qui dura 3 jours, 3 jours durant lesquels Véronique Akobé continua à crier « Mais j'ai été violée », 3 jours qui suffisent pour échafauder un mobile absurde, le vol. Jamais personne n'écoutera les cris de Véronique, ni les juges, ni le président, ni même les avocats de Véronique. Ils ont été commis d'office. Un d'eux est le leader du Front National de Nice. On peut imaginer la solidarité qu'il peut éprouver avec une jeune femme ivoirienne. Le président du tribunal n'entendit jamais les explications de Véronique. Quant à ses avocats, ils ne fondèrent pas leur défense sur les violences sexuelles qui seules pouvaient expliquer le crime. Le 1er février 1990, le procureur demande 15 ans. Le jury, lui, la condamne à 20 ans de prison dans les 2/3 sont incompressibles. Elle est donc, depuis 9 ans, toujours en prison. Actuellement, un mouvement de solidarité s'est organisé autour du cas de Véronique. Un comité de soutien a été créé pour demander sa grâce sans expulsion du territoire français. Ce comité s'est adressé à Jacques Chirac et il a reçu le soutien de nombreuses personnalités et organisations, tant en en France qu'à l'étranger. On peut d'ailleurs s'associer à ce comité. Un numéro de téléphone à Paris, le 45 84 24 24. Je répète, 45 84 24 24. C'est donc l'adresse de l'association contre les violences faites aux femmes au travail. La situation d'ailleurs aujourd'hui des femmes ne cesse de s'empirer avec la crise. Un livre vient de sortir, Esclaves, 200 millions d'esclaves aujourd'hui, publié aux éditions Phoebus. Il est écrit par Dominique Torres et consacré à ce sujet tabou, aussi tabou qu'explosif, l'histoire des femmes esclaves. L'auteur, journaliste de France 2, a enquêté dans le monde entier sur cet empire concentrationnaire méconnu. La France n'échappe pas à cette traite humaine. Le journaliste Dominique Torres estime que 17 000 ressortissants philippins, dont 95% sont des femmes, sont traités comme des bêtes, principalement à Paris et sur la Côte d'Azur, où fleurissent des véritables filières d'importation d'esclaves. En octobre dernier, le journal L'Humanité avait publié le témoignage de deux jeunes femmes philippines réduites au servage au siège même de l'ambassade de Qatar en France et qui avaient finalement réussi à s'en échapper. Un horrible trafic d'organes de nouveau-nés a été mis en évidence entre le Liban et la Jordanie. La presse arabe se fait l'écho depuis quelque temps des tragédies vécues par des travailleuses sri-lankaises au Moyen-Orient, en particulier des domestiques recrutées en masse dans les années 80 et dont beaucoup subissent un quasi-esclavage. Le sommet a été atteint avec l'information publiée par un quotidien libanais selon laquelle des cadavres de Sri Lankaises disparaissent mystérieusement au Liban et font l'objet d'un vaste commerce d'organes. Pour appuyer ces dires, le journal publie le témoignage d'une jeune femme de ménage sri lankaise employée dans un hôpital de Beyrouth qui affirme avoir vu des centaines de ses compatriotes se volatiliser après le décès. Selon le quotidien, un cadavre coûte environ 700 $, mais l'âge entre également ligne de compte, le corps de jeune fille s'arracherait au marché noir. Certains corps sont disséqués sur place et vendus en pièces aux facultés de médecine et aux hôpitaux. Autre trafic, celui-ci, c'est celui des petits-enfants. Et c'est un journal libanais qui accuse le premier consul sri-lankais en Jordanie de kidnapping. Au cours des deux dernières années, écrit son enquêteur, 36 nouveau-nés ont été arrachés à des jeunes mères sri-lankaises et vendus en Europe pour l'équivalent de 40 000 francs français par enfant. L'histoire est systématiquement la même pour chacune des victimes. Après avoir été violées par leur employeur, elles cherchent refuge au consulat sri-lankais à Amman, mais au lieu de les encourager à porter plainte, celui-ci leur ordonne, sous peine d'expulsion, de garder l'enfant. L'enfant ensuite est retiré à la mère et envoyé dans une filière d'adoption. Le premier consul sri-lankais en Jordanie, qui serait donc le principal instigateur de ce commerce, est déjà accusé d'avoir violé 3 employés de maison sri-lankaises. Like I can never be honest. Like I'm in it for the thrill. Like I never loved anyone. And I never will. En Argentine, depuis 20 ans que les Folles de Mai tournent et elles continuent à tourner, elles sont rejointes aujourd'hui par les sacrifiés du libéralisme. Elles ont commencé en 1976, au moment du coup d'État, de la dictature militaire en Argentine. Convaincues que le sort réservé aux disparus était la mort, une poignée de femmes bravant l'indifférence, la peur, les militaires, défiant la junte au pouvoir, ont commencé à marcher sur cette place de Mai. Et immédiatement, on s'est dit, il n'y a que des folles pour pouvoir faire ça. Et elles ont été appelées les folles de la place de Mai. C'est d'ailleurs elles, cette folie, qui, dans l'ambiance de folie meurtrière, ont pu sauver l'Argentine, tirant le pays de sa léthargie. Foulant sans relâche le sol d'une place symbole, elles ont exhumé la mémoire des 30 000 disparus qui n'auront eu pour tout linceul que les vagues de l'océan ou la terre souillée des décharges. Chaque jeudi, déroulant leur banderole, elles pavoisent la place des villages de leurs disparus combattants enfin reconnus de la liberté. Quand en décembre 83, les militaires se retirent, laissant la place aux civils, le pays entame le bond qui doit le propulser dans le peloton des nations riches, mais on sait ce que cela veut dire, c'est aussi le cortège des exclus et des chômeurs. C'est encore une fois vers les maires de la place de Mai, c'est le nouveau nom qu'on donne aux folles, que se tournent les citoyens au début des années 90. Elles sont appuyées par leur slogan inspiré par l'écrivain uruguayen Galeano, pour qui la seule lutte qu'on perde est celle qu'on abandonne. Ce slogan devient le bien commun de ceux qui refusent de se résigner au pire dans lequel s'enfonce le navire sous la houlette d'un président garant du modèle ultralibéral. Autour des maires, maintenant, le jeudi, se retrouvent face au palais présidentiel chômeurs, retraités, étudiants exclus dans un combat commun, uni pour les droits de l'homme. Le 28 juin prochain, les maires engageront leur 1000e marche hebdomadaire. 1000 jeudis qui furent tristes au début, durs avec le temps et plus gais aujourd'hui. C'est ce que déclare Hébé de Bonafini, la présidente de l'association des folles de la place de Mai. Aux États-Unis, va débuter le plus grand procès pour harcèlement sexuel. 300 femmes se plaignent. L'État américain est intervenu. Selon la Commission fédérale de l'égalité pour l'emploi, plusieurs centaines de femmes auraient subi des contraintes sexuelles dans une filiale de Mitsubishi dans l'État de l'Illinois. Plusieurs centaines d'employés de cette filiale du constructeur japonais Mitsubishi ont subi le harcèlement sexuel de collègues, certaines étant forcées à des actes sexuels pour obtenir un emploi. C'est ce qu'a accusé le gouvernement américain dans une procédure explosive. La Commission fédérale de l'égalité pour l'emploi, l'EEOC, a entamé cette procédure pour harcèlement sexuel grossier et choquant à l'usine Mitsubishi de Normal dans l'Illinois. 300 à 500 femmes sont concernées selon l'agence. Cela pourrait être le plus grand procès pour harcèlement dans l'histoire de l'article 7 qui touche les femmes qui se comptent non en dizaines mais en centaines. Dans sa plainte déposée devant le tribunal, la Commission fédérale pour l'égalité affirme que les employés de l'usine se sont livrés à de façon répétée à des tripotages, pelotages et attouchements sur les femmes de l'usine. Selon l'EOC, depuis 1990, les agressions sexuelles contre les femmes de l'usine recouvrent des actions très graves, allant des dessins d'organes génitaux, seins, etc., sur les pare-chocs des voitures des jeunes femmes, au palpage par des employés des seins, des fesses et parties génitales, moqueries, mises à l'écart, menaces physiques contre les femmes qui protestent, sabotage de leur travail, appellations comme chiennes, etc. Et des femmes de l'usine ont même dû consentir à des actes sexuels pour obtenir ou garder leur emploi. Certaines ont été forcées à la démission lorsqu'elles se révoltaient, poursuit la plainte. Gary Schultz, le vice-président de la filiale Mitsubishi de l'Illinois, a rejeté bien sûr toutes les accusations et commentaires d'officiels américains. Quant à Tokyo, le groupe Mitsubishi a exprimé sa confiance dans sa filiale américaine. « Nous avons été informés par la société américaine qu'aucun harcèlement sexuel ne s'est produit, alors nous les croyons. » Cette action aura un impact significatif sur la vie des femmes ouvrières partout aux États-Unis, particulièrement celles qui s'efforcent de gagner leur vie dans des emplois traditionnels, traditionnellement dominés par les hommes. C'est donc un procès à suivre avec beaucoup d'intérêt. D'autant plus que la Commission pour l'égalité de l'emploi, la EOC, qui mène toute l'affaire, est dans la cible d'attaque de la majorité républicaine liée au Congrès en 1994. Majorité qui affirme que les procès pour harcèlement sexuel sont devenus un point intolérable pour les entreprises américaines et qu'ils étaient trop souvent intentés pour des raisons futiles quand même. Un petit viol par-ci, par-là, une main au cul, on ne va quand même pas mettre en crise des entreprises pour ça. À vrai dire, l'EOC a eu parfois des hauts et des bas. L'affaire la plus récente a été la plainte déposée contre Hooters, une chaîne de restaurants dont l'attrait principal est que les serveuses, ils sont toutes des très jolies jeunes femmes, vêtues de manière relativement très sexy. L'EOC a été la contrainte de battre en retraite devant la levée des boucliers qu'a provoqué sa tentative de poursuivre Hooters en exigeant que les emplois n'y soient pas exclusivement féminins et qu'on ne force pas les jeunes femmes à s'habiller de cette façon. Cependant, l'an dernier, l'EOC a également remporté une belle victoire, la plus belle, puisqu'elle a contraint les laboratoires d'elle, une société de cosmétiques de New York, à verser 1,2 million de dollars à ses employés en échange de l'abandon des poursuites contre son président-directeur général, qui ne faisait que des choses tout à fait futiles et banales, comme tripoter ses salariés, d'exiger d'elle diverses gâteries sous peine de licenciement et de se promener dans les ateliers avec la braguette de son pantalon ouverte.
We put him in the ground. When my father died, it was like a whole library burned down.
En France, les licenciements pour cause de look se multiplient. On est viré pour son acné, pour sa coupe de cheveux. La liste des fautes ou des motifs invoqués par les employeurs pour justifier un licenciement semble inépuisable. Après l'obésité d'une postière, la boucle d'oreille d'un coursier, le refus de porter la jupe pour une standardiste, voici l'acné d'une esthéticienne et la coiffure punk d'un jeune cuisinier. La cour d'appel de Grenoble s'est cependant montrée très peu compréhensive à l'égard des patrons de cette esthéticienne souffrant d'acné persistante. L'acné ou toute autre imperfection cutanée ne constituant pas encore un motif de licenciement juridiquement recevable, a donc statué la cour d'appel de Grenoble. Il faut dire que puisque l'acné dont ils s'étaient bien accommodés pendant les 20 ans où la femme a travaillé pour eux, les juges ont cru comprendre que c'était l'âge et l'ancienneté de la salariée qui posaient peut-être problème aux dirigeants du salon de beauté. Et oui, une femme d'un certain âge, avec une certaine ancienneté, a un salaire beaucoup plus haut qu'une jeune qu'on vient d'engager. C'est donc la logique actuelle des employeurs. On vide les vieilles, on engage des toute jeune à qui qu'on peut payer au niveau du SMIG. D'ailleurs, petite anecdote, c'est ce que j'ai pu vérifier moi-même dans un supermarché près de la frontière. C'est un supermarché qui appartenait à la chaîne Champion. Ensuite, il est passé à la chaîne Banco en gardant les mêmes employés. Et puis maintenant, il est devenu Quick. La moitié, les trois quarts des employés sont partis. J'ai posé la question à une femme que j'ai cru reconnaître qui m'a dit « Eh oui !» Effectivement, avec la nouvelle firme, eh bien, on a remis tout le monde au SMIC. Alors, bien sûr, les anciens sont partis et les jeunes ont été engagés.
When you're drowning or falling asleep, you get turned around. And when you think you're swimming to the surface, you're swimming straight down.
En France toujours, un nouveau syndicalisme s'organise dans le sillage de Sud, le sigle Sud qui signifie solidaire, unitaire et démocratique. Ce syndicat est né d'une dissidence chez les postiers agents des télécommunications CFDT en 1989. Maintenant, le syndicat, dirigé par Annick Coupé, fait école dans le secteur public. Tous les déçus de la CFDT et de la CGT, surtout issus des dernières grèves en France, ont donc rejoint le syndicat Sud. Les autres confédérations observent avec irritation la possible émergence d'une centrale concurrente. Donc, le syndicat Sud qui s'est renforcé depuis le mouvement social de la fin de 1995. Après les bons résultats obtenus par le syndicat Sud aux élections de la SNCF, des organisations nouvelles se créent dans les secteurs les plus divers. Le groupe des 10, qui réunit plusieurs syndicats autonomes non confédérés, va d'ailleurs adopter l'intitulé « solidaire et unitaire ». Les références de ce nouveau syndicat s'inspirent des revendications de la CFDT des années 70, autogestion, anticapitalisme, féminisme. Mais on a pris aussi en compte la question du chômage et la lutte contre l'exclusion. Toujours en France, la parution d'un livre sur la question homosexuelle divise la communauté homosexuelle. Il s'agit du livre du sociologue Frédéric Martel, Le rose et le noir. ce livre déclenche de nombreux débats sur la structuration et les engagements des mouvements homosexuels. C'est une histoire très détaillée depuis 1968 qui aborde deux questions sensibles, celle du communautarisme et celle du déni du sida par les militants gays jusque dans les années 84-85. Frédéric Martel soutient la thèse du droit à l'indifférence, arguant que la sexualité des individus relève de la sphère privée et qu'elle ne peut en aucun cas servir de gage à la construction d'une identité. Au contraire, les mouvements gays dénoncent le faux débat, car ils défendent une communauté qui s'est structurée surtout à partir d'une expérience commune de la discrimination. C'est donc, on ne peut pas choisir entre solitude et communauté. Il faut trouver les forces pour défendre ses droits. Par ailleurs, toute la communauté reconnaît la partie historique du livre qui est très, très bien documentée, « Le rose et le noir » de Frédéric Martel, paru aux éditions du Seuil.
Is this the end of the known world? Men and women in their boats try to save.
Toujours en France, plus de naissances hors mariage, toujours plus. Un peu plus du tiers des enfants nés en 93 sont issus de parents non mariés, alors que dans les années 60, il y avait 6%. En plus, cette progression est constante et s'observe dans tous les milieux sociaux. Ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois, il y a plus de naissances hors mariage en province qu'à Paris ou en Île-de-France. Et puis surtout, les naissances hors mariage sont beaucoup plus fréquentes chez les ouvrières et les employés que chez les cadres.
We begin again, we try, we begin again. Down by, we're going down by.
À Genève, un groupe de Chinois dénonce les exécutions publiques devant l'ONU. Venu présenter un film vidéo sur les exécutions publiques en Chine, le dissident Harry Wu, qui était détenu 19 ans dans un camp de travail, a confirmé les chiffres avancés par Amnesty International. 2050 exécutions en 1994 et il y aurait plus de 1000 exécutions seulement dans le premier trimestre de 1995. Dans la seule ville de Shenzhen, 13 détenus ont été condamnés et exécutés en public devant une foule spontanée de 20 000 personnes. La Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme attire l'attention également sur deux textes qui permettent de condamner les défenseurs des droits de l'homme et des journalistes à des lourdes peines de prison pour avoir dévoilé des secrets d'État. C'est le cas de la journaliste Madame Gao Yu, qui est réputée pour son intégrité et qui vient d'être condamnée à 6 ans de prison après un procès à huis clos pour avoir justement révélé des secrets d'État.
I'm lying in the shade of my family tree. I'm a branch that broke off.
En Suisse, l'Union syndicale suisse demande la transparence salariale pour briser le tabou. 2 semaines avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'égalité entre hommes et femmes. L'Union syndicale suisse veut briser un tabou en déclarant le 14 juin 1996 journée de la transparence salariale. 5 ans après la première grève nationale des femmes, l'USS ne veut plus d'un secret le plus dorloté des mentalités collectives helvétiques, car la transparence salariale constitue la clé de voûte de l'égalité des salaires. Et oui, pour savoir si on a un salaire différent de celui de son collègue, il faut avant tout le connaître. La nouveauté la plus importante introduite dans la loi sur l'égalité porte sur la qualité pour agir en justice accordée aux syndicats, souligne Christiane Brunner, conseillère aux États, coprésidente de l'USS. Inscrite dans la loi fédérale sur l'égalité, qui va entrer en vigueur le 1er juillet 1996, cette disposition permet d'agir sans exposer inutilement les personnes concernées. Les syndicats peuvent donc porter plainte au nom des personnes et pour des cas d'inégalité, mais bien sûr, justement, il faut avant connaître les salaires. L'Union centrale des associations patronales suisses, elle, bien sûr, n'est pas très contente. Elle met en garde contre les inconvénients d'une transparence salariale. Les comparaisons peuvent conduire à des interprétations erronées si on ne tient pas compte des critères individuels, comme les horaires de travail, les vacances, les responsabilités, les prestations fournies, pour ne pas dire le sexe. Des conséquences indésirables, comme des jalousies et la malveillance, peuvent détériorer le climat des entreprises, soulignent les employeurs.
Hey!
they sailed away for a week and a day to the land where the palm tree.
Leila Khaled, l'ancienne pirate de l'air, ne peut pas entrer en Cisjordanie. L'ancienne pirate de l'air palestinienne et membre du Conseil national palestinien, Leila Khaled, n'a pas réussi à entrer en Cisjordanie faute d'autorisation israélienne. Leila Khaled avait participé en septembre 1970 à la tentative de détournement d'un avion de la compagnie israélienne El Al. Elle avait refusé de signer au préalable un engagement pour la paix réclamé par les autorités israéliennes.
They dance by the light of the, by the light of the, by the light of the
À 10 ans après l'accident, la catastrophe de Tchernobyl, les chiffres sont toujours controversés. Des chiffres ont été avancés le 11 avril en marge de la conférence de Vienne sur le bilan sanitaire de l'accident de Tchernobyl, comme l'appellent toujours les officiels. Alors que le bilan officiel fait état de 31 morts dans les 3 mois qui ont suivi et de 42 morts ensuite, un médecin ukrainien présenté par Greenpeace a affirmé que d'après les chiffres des ministères ukrainiens de la Santé, 60 000 liquidateurs, ceux qui avaient donc dû enterrer le sarcophage, avaient succombé des suites de leur intervention autour de la centrale nucléaire accidentée. C'était les nouvelles sur la pleine lune, 93.8 MHz, Ondes Femmes, Radio Zone. Dans quelques instants, les coups de cœur de Marjolaine.
Did she fall,
or
was she
pushed? Your
shirt
on
my
chair, your
shirt
on
my
chair. I'll be
with you. Be
there.
I'll never
leave you. Your
shirt
on
my
chair. Come
here,
little
girl.
Get
into
the car.
It's
a
brand
new
Cadillac, bright
red. Come
here,
little
girl. Hey, haven't
I
seen
you
somewhere
before? Your despair
in my heart, bright
red.
Your
words
in
my
ears.
I'll be
with you.
I'll
be
there.
I'll never
leave you.
Wild beasts shall rest there, and owls shall answer one another there, and the hairy ones shall dance there, and sirens in the temples of pleasure.
Your
shirt
on
my
chair. I'll be
with you.
I'll
be
there. I'll never leave you.